aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone. Le soleil est dans le ciel, mais dans vos oreilles, c'est la lune, comme tous les mercredis à partir de 18h30. Dans quelques instants, c'est les nouvelles, les informels de la pleine lune, suivi des coups de cœur de Marjolaine. Restez à l'écoute pour nos nouvelles. Radio Pleine Lune, 3.8 MHz, on se fait en Radio Zone, nos nouvelles. L'Europe des chômeurs se met en marche. Des 14 cortèges sont partis ce lundi de toute l'Europe pour se retrouver à Amsterdam le 14 juin. Les chômeurs n'ayant pas beaucoup d'argent, c'est donc à pied qu'ils ont décidé de rejoindre la capitale de la Hollande ou dans le cas des Lapons, ils iront aussi en ski de fond. Ce week-end, les premières marches sont donc parties, ont démarré de Brest, de Grenoble, d'Algésiras en Espagne, d'Ivalo en Finlande, de Crotone en Italie. Pour la symbolique nord-sud, 400 marcheurs sont partis également de Tanger au Maroc, les clins d'œil est-ouest, un petit cortège s'est mis en branle à Sarajevo. Au total, donc 14 marches européennes qui vont converger pendant 2 mois via un millier de villes-étapes jusqu'à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam ? C'est que le 14 juin se tiendra une conférence internationale des États sur la question de l'Europe. Europe qui, justement, telle qu'elle est pensée aujourd'hui, met souvent des milliers de personnes à la rue ou en tout cas au chômage. Les organisateurs de ces marches tablent sur 30 000 à 50 000 participants. On pense que 50 000 Français environ joindront le mouvement. En France, c'est des organisations comme Agir Ensemble contre le chômage, le Mouvement national des chômeurs et précaires, le Droit devant et des syndicats comme le Sud et le FSU qui soutiennent cette marche. Mais dans le reste de l'Europe, ce sont d'autres types d'organisations. Et puis toute la marche sera suivie par un auteur de romans policiers, Jean-Bernard Puy, l'auteur de la collection Le Poulpe, qui donc rédigera plusieurs nouvelles tout le long du parcours. La fin, en tout cas, est déjà claire. Le siège de la Banque centrale qui risque de morfler. Les organisateurs qui ont donc... Cette marche a été décidée l'année dernière à Florence lors d'une rencontre internationale sur le thème chômage et précarité. Un manifeste a été écrit. Nous, citoyens et citoyennes de tous les pays d'Europe, chômeurs et chômeuses, salariés stables ou précaires, retraités, immigrés et pour certains et certaines sans logis, avons décidé de mettre en marche ensemble vers Amsterdam où se tiendra la conférence des représentants des gouvernements d'Europe qui se réuniront dans une conférence intergouvernementale le 14 juin à Amsterdam. Ensemble parce que nous savons que ce qui nous rassemble et nous fait agir est bien plus fort que toutes nos différences. Nous marchons pour dire ensemble notre colère, disent-ils. Il y a dans la communauté européenne plus de 20 millions de chômeurs, 50 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, 5 millions sont sans abri. Chacune et chacun peut être victime. Les entreprises d'Europe intensifient leur travail et on assiste à une répression, une régression de tous les droits collectifs conquis depuis plus d'un siècle. Dans les sociétés organisées sur le mode patriarcal, les femmes sont principalement visées. Souvent, elles ont des horaires partiels imposés, une flexibilité, des salaires toujours inférieurs, des qualifications sans évolution. Elles sont les premières victimes des régressions sociales, mais les hommes seront de plus en plus soumis aux mêmes contraintes. Nous marchons ensemble pour dire notre révolte, parce que la crise n'est pas une fatalité. Nous marchons ensemble, disent-ils, contre l'Europe telle qu'elle est en train d'être édifiée, sans nous et contre nous. Nous marchons ensemble pour une autre Europe. Nous voulons que s'impose partout en Europe une logique radicale et résolue de lutte contre le chômage. Et puis en Europe, à Genève, cette marche va également s'arrêter. Elle arrive le mardi 22 avril et mercredi sera un point fort de cette présence des marcheurs sur le sol genevois. Nous avons rencontré une organisatrice de Comité d'action chômage qui participe à l'organisation genevoise de cette marche.
Alors la marche passera à Genève, comment ça va se passer?
Donc les marcheurs italiens et français vont arriver par la frontière d'Annemasse mardi 22 dans la matinée. Ensuite, ils seront reçus pour un repas de midi et au Goulet à Schönbourg, donc dans un squat, où il y aura l'animation des cultures vivantes qui sera présente. Ensuite, dans l'après-midi, à 16h, les délégations seront reçues à l'Organisation internationale de travail. Le lendemain, mercredi 23 à 11h30, une manifestation va être organisée devant l'Organisation mondiale des commerces, l'ancien GATT, où il s'agit d'organiser un moment fort de ce séjour à Genève. Et le même jour, mercredi, à 18h, un rassemblement à Rives va permettre à la population genevoise de participer dans un cortège contre le chômage.
Pourquoi l'OMC?
Et nous considérons que c'est une organisation qui participe pleinement dans la détermination d'une politique néolibérale qui conduit à une idée d'accepter le chômage comme une fatalité. Et c'est contre cette idée-là que nous souhaitons nous battre. C'est contre cette idée-là que nous marchons tous ensemble vers Amsterdam, où le 14 juin va se tenir une conférence intergouvernementale qui, elle, ne tient pas compte du chômage qui touche des dizaines de milliers de femmes et d'hommes sur notre continent.
Alors aujourd'hui, vous organisez une conférence de presse et un petit événement devant un McDonald's. Pourquoi?
Et donc nous avons aujourd'hui organisé la conférence de presse, premièrement pour marquer le début des marches. Deuxièmement, dans un lieu symbolique qui crée des emplois dans un système de précarité parfaite et qui conduit effectivement ensuite à une désaffection des conditions de travail où l'être humain est reconnu pleinement.
Alors la marche passe par Genève, donc les moments forts c'est le 22, le 23 mars. Et ensuite, elle continue vers où?
Ensuite, encore le 24 au soir, nous avons un débat sur le chômage et l'immigration organisé à l'université albanaise. Et ce n'est que vendredi 25 que nous allons quitter avec une marche à partir de Plein Palais vers la gare où nous allons prendre un train. Et ensuite, nous allons nous arrêter à Nyon. Et ensuite, nous allons sortir du train à une vingtaine de kilomètres avant Lausanne pour continuer à pied et entrer à Lausanne, donc à pied.
Merci beaucoup. Alors, le problème du chômage en Suisse se pose bien sûr parce qu'il y a des chômeurs, mais aussi parce que le Conseil fédéral prend des mesures, entre autres l'arrêté fédéral d'urgence, qui n'est pas nécessairement en faveur des chômeurs.
Donc depuis 1990, il y a eu plusieurs arrêtés urgents qui chacun amène une détérioration de la condition des personnes au chômage. Les derniers diminuent les indemnités des chômeurs d'1 à 3%. Et c'est l'Association de défense des chômeurs de la Chaux-de-Fonds qui a lancé un référendum qui a été suivi par certaines sections des syndicats. Ainsi, les associations de défense des chômeurs et les syndicats, nous avons pu réunir plus de 50 000 signatures. Et maintenant, nous entrons de plein pied dans une campagne qui va déboucher sur une votation probablement au mois de septembre. Et nous souhaitons sensibiliser la population sur cette question, car nous estimons qu'il n'est pas acceptable de faire peser sur les dos des personnes qui sont déjà victimes de cette situation économique, encore d'autres dégradations.
C'était donc une des représentantes de l'association du comité contre la coordination des marches contre le chômage qui s'exprimait sur les événements qui auront lieu à Genève. Je vous rappelle donc le mercredi 23 à 11h30, manifestation devant l'OMC, c'est à la place Albert Thomas, et à 18h, grande manifestation populaire à partir de Rives le mercredi 23 avril. Je vous donne également un numéro de téléphone si vous voulez contacter le comité de coordination des marches. C'est le 731 56 66 à Genève. Je répète, 731 56 66. En Pologne, malgré la légalisation de l'avortement, la majorité des hôpitaux publics refusent de pratiquer des avortements. 3 mois après la légalisation de l'avortement en Pologne, plus de la moitié des hôpitaux publics refusent de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Dans la majeure partie des cas, gynécologues, anesthésistes, infirmières invoquent le code éthique de leur profession qui leur permet de dire non aux pratiques contraires à leur conscience professionnelle pour ne pas procéder à des avortements. L'avortement en Pologne est interdit pendant 4 ans, de 93 jusqu'à la fin de l'année dernière, sauf en cas de viol ou d'inceste, était auparavant, sous l'époque communiste, totalement autorisé. Depuis le 4 janvier, on peut de nouveau avorter en Pologne pour des raisons sociales ou personnelles jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Mais les militants anti-avortement n'ont pas baissé le bras. Ils le disent eux-mêmes, la loi meurtrière de Staline, dont le seul but était d'anéantir la nation populaire polonaise, est de retour. Le boycott massif de la nouvelle loi a bien sûr reçu le soutien des évêques polonais de l'Église qui ont exprimé lors de leur dernière conférence épiscopale, je cite, leur gratitude et leur reconnaissance à tous les gynécologues et tout le personnel médical qui, malgré la loi, exclut de manière catégorique de participer à l'homicide. L'Église polonaise ne cesse de rappeler les mots du pape, la nation qui tue ses enfants n'a plus d'avenir. Et à Noël, dans une église, dans une crèche symbolique, des instruments gynécologiques ont été placés à l'endroit où devait reposer l'enfant Jésus, ça parle tout seul. Le mouvement de refus a commencé dans le sud du pays, 2 directeurs ont annoncé à la radio qu'ils ne pratiqueraient pas d'avortement et que l'avortement serait interdit dans toute la ville. L'exemple a été suivi par les hôpitaux de Silésie qui ont également répondu à l'appel de l'archevêque qui a demandé d'interdire l'avortement. Varsovie semble être une ville un peu plus libérale, mais les hôpitaux qui pratiquent l'avortement ont très peur et ils le font en cachette presque, de peur de se voir attribuer l'étiquette de clinique abortive et de s'attirer les foudres des militants ultra-catholiques manifestant sous les fenêtres, rosaires, bougies et pancartes à la main. Pour la présidente de la Fédération pour les femmes de la planification, bien sûr, il est positif que la loi ait été adoptée, mais il reste beaucoup de choses à faire. En tout cas, pour les établissements publics qui désirent quand même suivre la loi et qui ne peuvent donc pratiquer des avortements, ils ont pensé prendre éventuellement des contacts avec des cliniques privées où et de payer eux-mêmes l'avortement. Ce projet suscite des vives critiques. En tout cas, une chose est sûre, c'est que bien entendu, la légalisation de l'avortement a arrêté la mine d'or que représentaient les avortements clandestins que les gynécologues pratiquaient quand même malgré le risque d'emprisonnement, mais à des prix exorbitants. En tout cas, la situation peut devenir de plus en plus critique puisque dans 6 mois, il y aura des élections, que Solidarité pourrait gagner et que s'ils gagnent, ce qui est presque sûr, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'interdire l'avortement de nouveau. Cette fois-ci, la loi serait beaucoup plus restrictive et causerait beaucoup plus de dégâts aux femmes. Toujours d'ailleurs sur la question de l'avortement, en France et aux États-Unis, la pilule abortive RU486 a été sacrifiée sous les pressions des anti-avortements. Les laboratoires Roussel-Uclaf, filiale française du groupe allemand Hoechst, a donc décidé de jeter l'éponge et le groupe a annoncé avoir cédé gratuitement les droits de cette molécule à un privé, Édouard Sakiz, ancien président de Roussel-Uclaf, qui est aujourd'hui à la retraite. C'est la première fois qu'un géant de la pharmacie abandonne totalement ses droits sur une molécule dont les coûts de développement sont pourtant très élevés. Déjà en 1994, sous la menace du boycott des autres produits lancés par des associations anti-avortement américaines, le géant pharmaceutique allemand avait cédé ses droits sur la molécule pour les États-Unis à une association sans but lucratif, une association qui n'a pas été capable, depuis lors, d'y assurer la mise sur le marché du médicament. En France, la peur également est présent de savoir comment est-ce que on pourra utiliser le RU486 qui aujourd'hui est utilisé sur environ 50 000 femmes, ce qui correspond à environ un quart des avortements pratiqués en France. Et les praticiens s'interrogent désormais sur la disponibilité future de cette molécule dont l'utilisation aujourd'hui est quand même très limitée. toujours sur cette question sur l'avortement. En Suisse, les nouvelles sont un peu plus réjouissantes puisque les femmes du Parti démocrate chrétien ont exigé, contre l'avis de leur parti, des règles claires en ce qui concerne l'avortement. Allant clairement à l'encontre de la position du parti suisse, les femmes PDC souhaitent une réglementation des délais en matière d'interruption de grossesse. Leur assemblée des délégués en a décidé ainsi. Elles devront en discuter et de façon assez conflictuelle avec la direction de leur parti. Cela ne signifie pas que nous soyons favorables à la proposition de la commission juridique qui préconise la solution des délais, mais, dit Brigitte Hauser-Suss, présidente des femmes PDC, nous restons opposés à l'interruption de grossesse, mais nous estimons cependant qu'il y a un problème et que pour le résoudre, nous n'avons pas de solution. C'est pourquoi nous souhaitons quand même une réglementation. Si cette position contredit celle du parti, les femmes ne désespèrent pas de convaincre leurs collègues masculins. Nous voulons susciter la discussion. Sur le fond, les femmes PDC considère qu'une réglementation est nécessaire au niveau suisse. Elle seule permettra de lever les disparités cantonales qui aujourd'hui suscitent un certain tourisme de l'avortement, si on peut l'appeler ainsi. La présidente des femmes PDC réclame aussi un meilleur soutien social, financier et psychologique pour les femmes afin qu'elles ne soient pas réduites, acculées à la solution de l'avortement qui est toujours le dernier recours et toujours fait dans la souffrance. Et de rappeler que les pays les plus tolérants à cet égard, tels la Hollande, enregistre des taux très faibles d'interruption de grossesse. La présidente des femmes lucernoises qui accueillait l'Assemblée des délégués ajoute quant à elle que la femme doit être considérée comme un être autonome et obtenir un droit de décision. En Argentine, la police argentine a mis le doigt sur un réseau de trafiquants de bébés opérant depuis 13 ans dans diverses provinces du pays. Plusieurs personnes ont été arrêtées, dont deux médecins. Les trafiquants s'assuraient la complicité de jeunes femmes qui sillonnaient les quartiers pauvres, repéraient des femmes enceintes et leur proposaient une assistance médicale gratuite, des facilités financières. Puis, le jour de l'accouchement, on les incitait vivement à donner leur bébé pour adoption, moyennant une certaine somme d'argent. Les nouveaux-nés à peau blanche étaient achetés 7 500 francs suisses, ceux à peau bronzée 4 500 francs, puis revendus à des prix encore plus hauts à des couples désirant des enfants, soit aux États-Unis, soit en Europe. En France, retour de bâton pour les salariés de l'entreprise Marie-Flo. Marie-Flo, qui a vécu une grève de plus d'un mois et qui, après la fronde, se voit confrontée à un plan social. Deux mois après la fin d'une grève menée pour la dignité, un projet de licenciement de 64 ouvrières sur 110 a été rendu public chez Marie-Flo, une entreprise de confection. Début janvier, 85 ouvrières se mettent en grève pendant plus d'un mois pour obtenir le départ du directeur technique qu'elles accusent de brimades et d'insultes. Celui-ci, arrivé depuis peu, s'applique à chronométrer chaque tâche pour imposer des temps d'exécution toujours plus rapides. Ces méthodes brutales, agrémentées d'injures, de hurlements, poussent les ouvrières à la révolte. On se fait humilier, traiter de tous les noms, de tas de merde, et j'en passe. On veut travailler dans des conditions humaines, c'est tout ce qu'on demande, témoigne une des ouvrières. L'affaire prend un retentissement national. Après 4 semaines d'un conflit très dur, le directeur est remercié, mais la victoire a un goût amer. Seules une 50aine d'ouvrières reprendront progressivement le travail, et aujourd'hui la direction invoque des difficultés financières pour justifier la suppression de plus de la moitié des effectifs. Pour le syndicat CFDT, outre une volonté de punir les grévistes, on soupçonne la direction de chercher à licencier la moitié du personnel pour ensuite le remplacer par des contrats à durée déterminée de l'intérim, en tout cas par des femmes moins combatives. En France toujours, un rapport officiel épingle le sexisme dans les manuels scolaires. À la demande du Premier ministre, un rapport a été effectué qui met en évidence que l'image donnée de la femme dans les manuels scolaires ne permet toujours pas aux jeunes filles de trouver des modèles positifs d'identification. Elles n'y trouvent la plupart du temps que des modèles de mère, d'épouse ou de ménagère, pas ou peu valorisés pour ses qualités. Et la femme n'est pas invitée à participer à la vie économique ni à l'histoire de son pays. C'est donc la conclusion du rapport remis au Premier ministre Alain Juppé. Si l'on ne trouve pas actuellement des livres cantonnant les femmes à la cuisine ou ne montrant que des hommes en mesure de prendre des décisions, il reste quand même un état d'esprit dans certains manuels scolaires qui envoient aux filles, de manière quasi subliminale, des injonctions très claires sur leur futur rôle. Les exemples sont nombreux. Dans un ouvrage de grammaire, à la leçon genre, on peut voir en illustration un garçon, un coq, un livre et à droite, une fille, une poule, une casserole. Dans un dictionnaire, à la définition du mot « bien », on peut lire « elle est bien, elle est belle, un homme est bien, il est un homme, c'est un homme estimable ». Et puis, pour illustrer le mot « bain », le président prend un bain de foule, Jeanne prend un bain de soleil. Les femmes sont également très peu citées, par exemple en littérature, sur 63 écrivains, seules 5 femmes sont dans la liste. Et puis bien sûr, l'exercice du pouvoir est toujours au masculin. Par exemple, quand on parle de l'élection des représentants d'élèves, seuls des garçons, bien sûr, sont mis en avant. Si une fille se présente, elle est totalement ridiculisée. Les auteurs du rapport suggèrent de demander au Conseil national des programmes de formuler explicitement la problématique non sexiste dans des documents d'accompagnement des programmes. Et puis d'ailleurs, en parlant de sexisme, en Suisse, on vient d'offrir la palme d'or de la pub la plus sexiste. Elle a été remportée par une publicité pour les sous-vêtements Triumph, placardée en Suisse alémanique, qui montre les effets remontants d'un soutien-gorge de cette marque, avec les seins symbolisés par des balles de tennis qui sont hautement portées dans un cas et puis qui retombent par terre dans l'autre cas. Le deuxième prix est... Le deuxième prix signe la remarquable contribution à la libération des femmes selon les cuisinières Zoug, dont la publicité démontre les capacités des ménagères affairées à préparer le rôti avec un enfant dans les bras et un autre dans les jupes. L'idée, non sans humour, d'un top 10 des clichés sur les femmes dans la publicité a été lancée par les magasins Body Shop et l'agence de communication Textline. Ils en sont à leur deuxième palmarès, élargi cette fois à la Suisse romande. Le premier s'était déroulé uniquement en région alémanique. Le classement a été déterminé par 500 Suisses, dont 95% de femmes qui ont joué le jeu du concours. Tout a commencé par un sondage dans les magasins Body Shop. Notre clientèle est avant tout féminine, donc intéressée par les questions d'image de la femme, relève la responsable de la communication. On a voulu donner un coup de pouce à la prise de conscience de l'utilisation parfois incorrecte de l'image des femmes dans la publicité, mais avec humour. Ce d'autant plus que les opinions sur la question sont loin d'être unanimes. Cette chaîne de magasins n'en est pas sa première campagne de sensibilisation sur des thèmes d'actualité, puisqu'elle s'est investie aussi contre le racisme et contre les expérimentations sur les animaux. Et également pour le soutien des Ogonis au Nigeria dans l'affaire de Shell en novembre dernier. Pour cette initiative précise contre les publicités sexistes, les organisateurs ont mené leur campagne dans les règles en informant de leur démarche non seulement les associations féminines, mais aussi les bureaux cantonaux de l'égalité. Ils comptent bien continuer l'expérience l'année prochaine. Et puis toujours contre le sexisme, c'est les lignes aériennes qui sont mises à l'exergue. La Fédération internationale des employés des transports a lancé une campagne contre les discriminations sexuelles et sexistes à laquelle est soumis le personnel aérien, première visée les compagnies asiatiques. Il y a 2 ans, Japan Airlines décida d'habiliter quelques hôtesses de l'air en costume de Minnie Mouse, par exemple, avec des grandes oreilles, des nœuds à gros points et des tabliers décorés. On avait laissé le choix au personnel de cabine, mais je ne crois pas qu'un seul steward ait porté des oreilles de Mickey, dit le porte-parole de la compagnie. Tandis que le JAL mettait Disney en scène dans ses avions, Air India s'est forcé d'embaucher les finalistes de Miss India à des salaires supérieurs à ceux offerts aux femmes recrutées par la procédure habituelle. Par la suite, pour faire face à la concurrence sur le marché intérieur, la compagnie exigea que des dizaines d'employés maigrissent, sinon elles resteraient au sol. Chez Singapore Airlines, certains personnels féminins peuvent être licenciés pour cause de grossesse. Les hôtesses de l'air subissent de nombreux outrages de la part des passagers et bien d'autres encore de la part de leur employeur. C'est particulièrement vrai dans certaines régions d'Asie. Qui a prévu d'organiser... Et donc, l'association La Fédération internationale des transporteurs aériens a décidé d'organiser pendant un an une campagne internationale contre le sexisme dans les compagnies aériennes. À l'origine de cette initiative, les plaintes généralisées exprimées par le personnel lors d'une réunion de la Fédération dans les régions Asie-Pacifique. Presque toutes concernaient la façon dont les compagnies aériennes utilisent une image sexiste de leur hôtesse à des fins publicitaires. Certains transporteurs aériens déclarent ne chercher qu'à satisfaire les passagers en montrant dans un avion tout le monde a plaisir à voir un joli visage souriant, dit par exemple un responsable de Indian Airlines. En tout cas, cela va contre le fait de la sécurité, puisqu'on engage des femmes peu formées, mais uniquement jolies. Le résultat, aux grandes dames du personnel, est que l'on accorde de plus en plus d'intérêt au physique et à la jeunesse des employés. Il y a un sexisme évident. Air India, par exemple, interdit de porter des lunettes en vol et empêche les femmes de devenir responsables de cabine. Et pour terminer, une nouvelle qui nous arrive des USA et qui ne pourrait arriver que des USA, c'est l'apparition de la première héroïne lesbienne dans une série télévisée en prime time. Rarement aveux ont été aussi longs, l'Amérique n'en finit pas d'apprendre que l'héroïne de l'un de ses feuilletons télévisés préférés, Hélène, admettra enfin dans un épisode qui sera diffusé le 30 avril qu'elle est homosexuelle et que la comédienne qui l'interprète, le rôle, Hélène DeGeneres, l'est aussi à la ville. Dans la communauté gay, la procédure s'appelle sortir du placard et lorsqu'une star du prime time sort du placard, cela peut faire du bruit. C'est la première fois aux États-Unis qu'une comédie diffusée à une heure de grandes écoutes met en scène un homosexuel ou une homosexuelle comme personnage principal. Les organisations de défense des homosexuels sont aux anges et ils organisent le 30 avril avec une vodka, une série de soirées sur le thème Come Out with Hélène à New York, Los Angeles et San Francisco. Du côté de la droite, le révérend Jerry Falwell, héros des valeurs ultra-conservatrices, surnomme désormais la comédienne Hélène Dégénérée. En réalité, la tolérance de la société américaine semble avoir nettement progressé à cet égard, d'autant plus que les seconds rôles homosexuels sont déjà familiers à la télévision et que le personnage d'Hélène ne fera que découvrir une homosexualité naissance. Pas de centauride. Ah, on ne peut pas tout avoir. C'était les nouvelles sur la pleine lune. Je termine par quelques rendez-vous. Je vous rappelle donc que le 22 avril, la marche des chômeurs arrivera à Genève. Vous pouvez l'accueillir à 10h à la frontière de Moelsula. Ce sera suivi par un repas dans le squat du Goulet. Et puis, mercredi 23 avril, journée d'action. Première manifestation à 11h30 devant l'OMC à la place Albert Thomas, suivi d'une grande manifestation populaire où tout le monde est invité à 18h le même jour. À partir de Rive en soirée, c'est Artemis qui accueillera les chômeurs avec une soirée festive. Jeudi 24 avril, la marche ira déjeuner sur le bateau, le Genève, puis passera au bain des Paquis, ensuite visite d'atelier, etc. Et le soir, discussion à l'Université populaire albanaise sur le thème chômage-immigration. Et puis le 25, ça repart sur Lausanne. Autre rendez-vous, c'est le 31 mai à Berne. C'est les lesbiennes et gays de Suisse qui appellent à une grande manifestation nationale pour interdire la discrimination envers les lesbiennes et les gays. La constitution doit être révisée et la communauté homosexuelle demande que les droits sexuels y soient clairement indiqués. Manifestation donc le 31 mai à Berne. Voilà, dans quelques instants, c'est Marjolaine et ses coups de cœur.
Sous la table d'une espagnole sainte. ces pommes de Grenade, crachées aux lèvres d'un garçon. Et dans les rires qui s'étendent,